Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes toujours très heureux quand nous vous savons très nombreux à l'écoute alors de La Nouvelle Génération pour l'émission Club de la Presse. Nous sommes aujourd'hui alors au mercredi 18 septembre 2024. Il sonne 11h sur votre radio. Vous comprenez que c'est le troisième numéro de l'émission qui démarre ainsi. Bienvenue au Club. La coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sousa est à la mise en onde. Jérôme Akoutia sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo, grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Amiro, Radio La Paix à Takpami, Central FM pardon, à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais n'oubliez pas, vous pouvez également nous capter sur des radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi pour débattre, bien sûr, de l'actualité. Confrères journalistes en studio, Basile Mignaté, bonjour.
Bonjour Pascal Lousseau et bonjour à nos fidèles auditeurs, auditrices de Canal FM.
Directeur de publication du journal Santé Éducation, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais au micro tout de suite, mais tout nouveau, l'honneur d'avoir même le président en studio avec nous. Monsieur le président, j'espère quand même que vous apportez de bonnes nouvelles.
Ah, tout à fait. Ça a été toujours notre fierté et d'appartenir à cette confrérie et pour donner des informations. Vous savez que lorsqu'on parle de publication, on parle de la production d'informations que nous mettons à la disposition des populations pour un meilleur avenir qui devait impacter, c'est ce que nous voudrions, ça a été notre souhait, leur santé, comme Santé Éducation le fait si bien.
Santé Éducation le fait si bien. Nous allons décrypter encore l'actualité sanitaire telle que vous l'avez traitée dans votre journal Santé Éducation tout de suite, mais bien avant, permettez quand même que je souhaite aussi la bienvenue à Sylvestre Béni, le plus béni même de tous. Sylvestre, bonjour.
Le seul béni de la corporation.
Non, mais attends, tu ne vas pas nous dire que tu es le seul béni.
Il veut rentrer dans le superlatif, là.
J'insiste là-dessus. Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous, si vous le permettez. Je vais profiter donc de votre antenne pour présenter nos cinq condoléances à la HAC et surtout aux premiers responsables et à tous les autres membres du bureau qui ont perdu donc l'un des nôtres. Puisque M. Abeka était journaliste pendant longtemps à la télévision togolaise.
Tout à fait.
Il a été rédacteur en chef avant donc de prendre un portefeuille ministériel, le ministre de la Communication, et après, je crois que depuis 2015 ou 2016, il est donc membre de la HAC. Il nous a quittés hier, donc nos condoléances à la famille professionnelle, qu'est les journalistes, et à sa famille biologique.
Tout à fait. Merci beaucoup. Et je pense que c'est l'émission Club de la Presse qui s'associe également à ma voix pour souhaiter justement ses condoléances à la famille éplorée, bien sûr, et également paix à l'âme lors du ministre disparu. Et c'est vrai, nous avons appris l'information hier et c'était vraiment tout un choc. Abassi Saka, vous avez appris aussi l'information. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de la radio Canal FM qui nous suivent en ce moment. Et je pense que nous avons appris l'information hier. C'était triste. C'était triste. Bon, on ne peut rien, c'est la volonté de Dieu. Il a donné, il a repris. On ne peut que souhaiter nos condoléances à la famille biologique, nos condoléances à la famille même de la presse et à tous les membres de la HAC. Parce que quelqu'un il nous a quittés parce que ça fait longtemps on le côtoie. C'est un homme très souriant avec lui.
Et très calme, hein.
Il blague, il fait des blagues et puis toujours très calme. Je pense que c'est quelqu'un, on ne peut même pas l'oublier. Donc la Haka perdu quelqu'un de celui qui est là, lorsque vous êtes un peu, vous n'êtes pas dans l'ambiance, il vous met dans l'ambiance. Je ne peux que vous souhaiter un bon repos éternel et toutes nos condoléances à la famille.
Basile, je ne sais pas si vous avez connu le ministre Agbeka.
Oui, je l'ai connu très très jeune, parce que ce sont des journalistes. Il est l'un des stars, quoi. Hein. Et puis, au journal de 20 heures, parce qu'on était tous adolescents, ça nous a donné aussi l'envie d'être un jour journaliste, si vous voyez. Donc, c'était une personnalité qui se respectait et qui a impacté aujourd'hui. Si certains confrères ont rejoint ce métier-là, je pense que c'est aussi l'exemple de cette illustre personne qu'ils ont suivi. Donc, on ne peut que lui souhaiter que la terre lui soit légère.
Voilà.
Et qu'il continue de servir au-delà, comme il a fait si bien sur cette terre ici.
Donc, on dira qu'il a fait sa part.
Tout à fait.
Et c'est à nous aussi de continuer par faire notre part, si le souffle de vie nous est toujours accordé, de continuer toujours par faire notre part, n'est-ce pas, Sylvestre?
Oui, je crois que c'est le testament suprême d'un des évêques que nous avons perdu il y a quelques jours, Monseigneur Bariga, qui aimait toujours dire « fais ta part ». Donc il a fait sa part, il a joué sa partition, aujourd'hui il est parti. Il revient donc à sa progéniture de garder la flamme et aux autres confrères qui l'ont tant aimé, donc de garder la flamme pour le meilleur du Togo. C'est important.
C'est important. Alors pour faire notre part, il est très important que nous soyons aussi en bonne santé. Et donc, Basile, nous allons parler de la santé telle que vous aimez bien le faire dans votre journal Santé Éducation. Je lis ce titre à la une alors de votre journal ce matin. 6 superbes plantes pour la santé des intestins. Vous intéressez à la santé des intestins?
Oui, Pascal. D'abord, je tiens à faire cette clarification. C'est un message très important à l'endroit de ceux qui nous suivent et ceux qui prisent aussi Santé Éducation. Ce que nous disons, moi, Santé Éducation, je l'ai dit tantôt, nous sommes là pour produire des informations santé. Et que ces informations qui sont des conseils émanant des professionnels de santé, émanant du système de santé, ne doit pas remplacer l'ordonnance médicale d'un médecin. Donc ça vient compléter ce qui a été instruit par le corps médical. Et donc, raison pour laquelle, dans ces articles-là, nous mettons aussi comment faire des recettes. Ce n'est pas en écoutant ce que nous disons seulement que la personne qui nous écoute va aller expérimenter tout de go déjà. Ça peut lui porter préjudice. Parce qu'on dit que l'excès de toutes choses est nuisible. Donc, nous attirons l'attention de nous tous ici. Parce que moi-même qui suis ici, moi aussi je suis un adepte de ce que nous écrivons. C'est-à-dire que je suis ça à la lettre. Donc, il faut cette précision-là.
Vous suivez cela à la lettre et ça donne aussi des effets.
Tout à fait. Donc, pour dire que aujourd'hui, je revenais d'un centre de santé, Sénao. Je voudrais voir le directeur, mais lorsqu'on m'a fait attendre, vous savez, j'ai fait une remarque très pertinente et qui m'a touché. C'est que quelques minutes que j'ai fait étant assis, j'ai vu des personnes, au moins 5, qui ont été amputées. 5 personnes. Ça fait à peine 30-35 minutes. J'ai vu, il y avait 3 messieurs et 2 dames qui ont vu leurs jambes amputées. Et j'ai demandé à un spécialiste, il dit que ce sont des pathologies chroniques que les personnes ont entraîné qui aboutit à l'amputation du ciel. Donc, ça m'a touché considérablement. Parce que ces personnes étaient accompagnées d'une ou bien deux personnes. Donc, je suis en train d'analyser ce que cela peut engendrer dans un ménage. Hein, dans un ménage modeste. Hein, en termes de disponibilité, en termes de coût, en termes de... Ce sont des choses évitables. Est-ce que vous voyez? Ce qui nous choque, c'est qu'on peut l'éviter. Comment est-ce que nous pourrons faire pour ne pas en arriver là? Parce que non seulement ça plombe l'économie, mais ça retarde tout. Parce que cette personne-là aura dépensé énormément financièrement et aussi va retenir les gens à sa disposition. Parce que
cela nous rend plus court alors pour toute la
famille. Vous voyez. Mmh. Donc, ça nous met la pression dessus. J'ai voulu partager ça avec vous, avec les confrères ici, pour dire qu'il y a encore du travail à faire. Ce n'est pas qu'on est bien portant que nous allons négliger l'aspect préventif. Est-ce que vous voyez? Comme on le dit, prévenir vaut mieux de guérir. Donc, faisons que vraiment qu'on arrive à stopper cette hémorragie qui gangrène vraiment nos ménages aujourd'hui. Parce que il y en a tant, c'est pas dans ce centre seulement, mais il y a aussi ailleurs, qui fait que vraiment il y a intérêt à en parler et à rentrer dans la prévention, à dire aux gens de changer leur manière de s'alimenter, leur hygiène de vie. C'est difficile, hein, changer une nature, une mentalité, ça prend du temps, mais faisons que nous soyons constants, hein, dans la prévention et à prendre ces informations au sérieux. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire avant.
C'est très important.
Voilà. Alors, pour ces super plantes pour la santé des intestins, Pascal, on a fait un petit sondage à Santé Éducation pour demander aux uns aux autres qu'est-ce que c'est, hein, la santé, qu'est-ce que c'est l'intestin, quel rôle joue l'intestin. Et les gens, tous ceux que nous avons pu interviewer, sont passés à côté du carreau, ne sachant pas ce que c'est l'intestin et comment faire pour que notre intestin soit dans une condition optimale. L'intestin est formé de deux parties. Il y a l'intestin grêle qu'on appelle petit intestin.
Petit intestin, oui.
Il y a gros intestin aussi. Donc, l'intestin grêle, c'est la grande partie, hein, c'est ce qu'on appelle dans la mécanique auto, le cylindre. C'est l'intestin grêle, c'est là où se fait la transformation, hein, de ce que nous allons manger et qui va dans l'organisme. Donc, par les villosités intestinales. Donc, c'est là que fait la transformation chimique de nos aliments que nous consommons. Lorsque nous mangeons, ça tombe dans l'estomac. Dans l'estomac, ça fait 1 heure ou bien 4 heures de temps. Ça dépend du type d'aliment que nous avons ingéré. Est-ce que vous voyez? Donc, la santé des intestins est primordiale. Parce qu'il y a une étude qui a été faite sur un peuple qu'on appelle les Hausa, au Pakistan. C'est un peuple au nord du Pakistan, un peu frontalier de l'Inde. On a constaté que ces habitants-là ont un intestin toujours propre. C'est dû à ce que ces populations mangent. On avait dit entre-temps que ce sont des peuples qui font plus de 150 ans. Mais ça poussait la curiosité des chercheurs et puis des médecins de venir voir si c'était une réalité. Et à leur grande surprise, ils ont constaté que les gens faisaient jusqu'à 120 ans là-bas. Et se voyaient. Cela est dû à ce qu'ils mangent. Comment est-ce qu'ils entretiennent leur intestin? Vous et moi ici, ou bien ceux qui nous écoutent, comment est-ce que nous entretenons notre intestin? Raison pour laquelle nous avons fait cet article-là, ça, on a regroupé six super plantes, hein, qu'on peut trouver dans nos marchés. Tout ce que nous publions dans cette écriture, c'est qu'on a ça sur nos marchés.
C'est des plantes qui sont accessibles.
Voilà. Comment est-ce que nous pourrions entretenir nos intestins? Parce que les intestins constituent aussi un autre système.
Quoi, de digestion?
Non, système.
Vous voulez parler du système nerveux?
Oui.
Le système nerveux?
Tout à fait. Parce que c'est nécessaire qui donne l'ordre au système nerveux pour activer son mécanisme. Donc, c'est pourquoi je disais que c'est comme tu achetais une moto bien. Une auto, on te dit c'est quel type de cylindre.
Voilà.
Est-ce que c'est 4, c'est 6, c'est 8? Donc, c'est pour monter la puissance du véhicule. Donc, l'intestin grêle joue un rôle très important dans le système digestif. Donc, j'attire l'attention de nos concitoyens pour leur dire comment est-ce qu'ils entretiennent leur intestin. Intestin, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Qu'est-ce que nous mettons dedans? Des frites, des aliments qui ne sont pas adaptés, qui portent préjudice à cet organe important. Qu'est-ce que nous donnons aux intestins pour diffuser dans l'organisme. Donc, c'est tout l'intérêt de cette
pratique. Merci beaucoup. Nous comprenons à travers votre intervention que les intestins sont vraiment des organes très importants pour nous. Et il est très important aussi alors de préserver ces organes et de les nettoyer aussi comme cela se doit. Alors, vous vous intéressez à notre organe, c'est le foie. Et vous écrivez « à nettoyer et renforcer le foie ».
Oui, c'est-à-dire en moto, ça c'est aussi une herbe, une plante que nous avons sous nos mains. Donc vous savez, dans le système hépatique, si on prend l'organe du foie, on dit que c'est le plus grand magasin. C'est le foie qui traite tout ce que nous mangeons et qui donne aux intestins. Donc ça quitte le foie, lorsque le foie travaille, donc l'intestin dit au foie, et au foie, au pancréas, et puis à la vésicule biliaire, de se mettre à sa disposition pour l'étape finale.
Il y a une synergie d'action entre
tout
les
deux. Tout à fait. Donc, en moto, c'est une herbe très, très importante pour entretenir notre foie. Raison pour laquelle, dans cet article, nous avons fait une recette. Comment faire cette recette pour booster notre foie, pour entretenir notre foie? Donc, c'est tout l'intérêt de cet article. Donc, on a donné le titre « Nettoyer et renforcer le foie ». Donc, en auto, c'est disponible dans les marchés, dans les champs. On peut en trouver.
On peut en trouver, justement, dans les champs et dans les marchés. Et cela nous aidera à nettoyer, renforcer surtout notre foie. Vous vous intéressez à un autre sujet dans la parution d'aujourd'hui. C'est les médicaments périmés. Vous écrivez « médicaments périmés dans les pharmacies ». Alors, qu'est-ce que les médicaments périmés font dans les pharmacies?
Donc, nous nous sommes inspirés sur une sortie d'un service au Bénin concernant une pharmacie qui distribuait de faux médicaments. Donc, ça a alerté les autorités béninoises qui ont commencé à servir et nous interrogeons aussi pour ce qui pourrait se passer dans notre pays. Nous savons que les autorités togolaises font tout et tout pour qu'on puisse disposer de bons médicaments pour la consommation de nos populations. Donc, il est aussi de bon ton qu'on puisse aussi réveiller aussi des gens, les nôtres ici, pour leur dire qu'est-ce qui se fait par rapport à ça. Est-ce qu'il y a toujours cette alerte au niveau de nous, les consommateurs, et au niveau des autorités? Donc, c'est un article d'alerte pour dire que nous qui utilisons, lorsque nous allons dans une pharmacie, nous achetons les médicaments, on écrit, on a des informations. Les informations sont faites pour nous, pour lire, pour savoir si le médicament, là, n'est pas périmé. Parce que lorsque un médicament qui est périmé, puis on gère ça, ça devient un poison pour l'organisme. Au lieu de faire le traitement que cela devrait, ça peut nous porter préjudice. Donc, c'est un article d'alerte que nous publions dans
Santé Éducation. Et c'est un article à consulter dans votre journal Santé Éducation, paru, bien sûr, ce matin. Alors, nous vous intéressez aussi à un autre sujet par rapport, surtout au sport. Vous dites, manger avant ou après le sport, conseil. Il y a des conseils quand même à prodiguer, c'est ça?
Oui, oui. Dans cet article-là, nous sommes intéressés à l'activité physique contre les maladies chroniques. D'aucuns disent, la plupart disent que lorsqu'on est malade, on ne fait plus du sport. C'est pas vérifié. Hein. Les professionnels de santé demandent, parce que c'est une étude qui a été faite, que l'activité sportive aujourd'hui, hein, l'activité physique, si on dit sport, ça, on peut, ça, c'est pour des professionnels. Hein,
voilà. Et ça englobe beaucoup de disciplines.
Ici, on parle d'activité physique. Peut-être le fait de marcher pour aller voir un voisin, ou bien le fait de faire une activité dans ton jardin, ou bien le fait d'aller à une occupation qui nécessite un effort physique, permet aujourd'hui au corps de se retrouver. Donc, la pratique du sport aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé que c'est un remède. Et donc, ceux qui sont sous le coup de ces maladies chroniques-là ont intérêt à adhérer, à insérer l'activité sportive dans leur quotidien, tout en s'approchant des professionnels de santé pour voir quel est le sport ou bien quelle est l'activité physique qui est adaptée à leur état de maladie,
voilà,
pour que ça ne puisse pas porter atteinte à leur intégrité.
D'accord, ok. Merci beaucoup, Basile. Nous accueillons d'être passé, bien sûr, dans cette émission. Alors, votre journal est dans les kiosques. Je sais que c'est en papier, en PDF. Alors, quelles sont les conditions pour l'avoir?
Non, c'est-à-dire que le papier, c'est à 1000 francs. Et voilà. Puis, sur le numérique, c'est à 500 francs.
Il y a quelqu'un qui voudrait, bien sûr, que vous insistez sur 1000 francs seulement.
Oui, 1000 francs seulement. Mm. Parce qu'avec 1000 francs, on peut s'acheter deux sucreries, deux sucreries ou bien une bière. Mm. Mais la recette que tu auras en achetant Santé Éducation et ces deux sucreries, la bière, la différence est grande.
Tout à fait.
Tu suis mon regard, n'est-ce pas,
Pascal? Justement, je suis ton regard.
Donc, sur le numérique, c'est à 500 francs. Mm. Et puis, le papier que vous voyez, c'est à 1000 francs. Donc, on peut nous rejoindre au numéro 96 14 97 90 17 ou 91 79 47 07.
Merci beaucoup, Basile Mignacchi, d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous et de parler de cette chronique santé à travers votre journal Santé Éducation qui traite des sujets alors liés à la santé qui n'a pas de prix, comme on a l'habitude alors de le dire. Chers confrères, nous revenons en studio alors pour parler d'autres choses. Sylvestre, c'est vrai, nous parlons même d'ailleurs de cet accident, ce grave accident qui a eu lieu à l'entrée d'Atakpamé, ou à Gli, plus précisément. Et vous êtes revenu sur le sujet ce matin, vous écrivez « Le médecin cassé route des accidents, à quand le démarrage de l'autoroute de l'unité ?» C'est, vous vous interrogez.
Oui, en réalité, parce que lorsque vous prenez cette voie-là, le médecin cassé, en fait, c'est une voie qui tue beaucoup. Hein, qui tue beaucoup. Lorsque vous voyez un peu le bilan que fait donc le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et puis son collègue des transports généralement, chaque semestre, vous verrez que c'est la route la plus meurtrière, sinon la plus accidentogène que nous avons. Déjà au premier semestre de 2022, si j'ai encore la mémoire fraîche, nous avons enregistré 107 morts sur cette voie, et au second semestre de 2022, nous avons enregistré 127 morts. Pas plus tard que le 15 septembre dernier, nous avons encore enregistré des morts sur cette voie à l'entrée de Gli, comme tu le dis, dans la zone à Danka, comme on le précise. Même si le bilan n'est pas encore officiel au niveau des autorités, on parle d'au moins 5 morts. Et la veille, déjà aussi à Tapamé, il y a eu aussi un autre accident sur cette voie-là. Je fais observer que même il y a une structure de l'État ou le personnel, une délégation qui se rendait, je crois que c'est en mai 2024, qui se rendait à l'intérieur du pays. Ils ont eu un accident lors d'un déplacement. Il n'y a aucun survivant. Donc, lorsque vous prenez donc cette voie, si on doit récapituler de 2007, puisque dans notre papier ce matin, nous sommes revenus sur certains chiffres, vous verrez que progressivement, on risque donc d'atteindre donc le cap de 1000 morts sur cette voie-là. Et là, je crois que ça a déjà interpellé les autorités togolaises, hein, qui ont à chaque fois promis hein, de faire un dédoublement de cette voie. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a rien qui soit fait sur cette voie. Mais bon, vous savez, c'est vrai qu'on n'a pas encore commencé. Mais on l'a déjà baptisé, ce sera donc l'autoroute de l'unité, même si il n'y a pas eu donc le premier coup de pioche, ce que Talon n'aime pas. Et il n'y a pas d'inauguration, il n'y a rien, mais bon, voilà quoi. Donc, vivement qu'on puisse revoir donc la route Lomé s'est cassée. Je crois, ça doit faire près de 700 km, hein, si on est de Lomé à s'est cassée. Donc, vivement que cela se fasse, parce que s'il faut continuer à compter les morts, c'est une voie d'abord trop exiguë, trop étroite. Et donc, généralement, c'est lors des dépassements qu'on a souvent donc des accidents. Voyez-vous, lors des dépassements.
Et surtout avec de l'excès de vitesse. Hein?
Oui, il faut le dire. En fait, vous savez, on ne peut pas avoir zéro risque. On peut dédoubler la voie, il y aura toujours des accidents. Vous savez, zéro risque n'existe pas. Mais pour l'instant, ce qui est urgent à faire aujourd'hui, vous voyez, les voies qui ont été dédoublées à Lomé, vous verrez qu'il y a moins d'accidents. Hein, la voie donc de Kassamblaka, de Gomé, pour peut-être moi, j'ai fait peut-être mon enfance là, je sais ce que cette voie, quand c'était en aller-retour, ce que ça a coûté en termes donc, de vies humaines. Aujourd'hui, nous avons deux voies, aller comme retour, au moins le risque est amoindri. Voyez-vous? Donc, lors des dépassements, oui, bon, ça c'est amoindri. Donc, vivement que le Togo puisse de doubler la voie là. Et encore, en termes donc économie, ça apporte beaucoup. Hein. Ça apporte beaucoup pour l'économie togolaise, puisque les pays de l'Itherland empruntent souvent la voie. Hein, aussi, vous voyez, donc, dans le papier ce matin, nous avons donné des chiffres. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ça profite au Togo si on arrive donc à faire ce dédoublement-là. Je finis peut-être par là, lors de la crise entre le Niger et le Bénin, vous avez vu que cette voie est souvent empruntée par les commerçants nigériens et tout. Et un responsable béninois, pour dénigrer le Togo, disait que non, que les Nigériens vont revenir à côté de nous parce que la voie là, c'est une voie accidentogène. Les gens meurent très souvent sur cette voie. Donc, lui, il est sûr que quand il y a deux ou trois accidents, ils vont revenir emprunter donc Lomé et Cotonou, Niger. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, c'est presque un cliché. Et sur cette voie-là, Lomé s'est cassé. Et donc, comme nous aussi, nous savons que ça nous profite véritablement en termes économiques. Et si on arrive à faire le dédoublement, ça va amoindrir donc les risques d'accident. Vivement que cela soit la priorité des priorités pour le gouvernement.
D'accord. Alors, oui, Abbas, c'est vrai qu'hier, il y a une délégation hein, du gouvernement qui s'est rendue sur les lieux pour apporter les condoléances hein, du gouvernement alors aux blessés et également alors à ceux qui sont décédés, même d'ailleurs aux familles de ceux qui sont décédés dans cette question ou dans cet accident. Alors, c'est vrai, au-delà de tout, aujourd'hui, la voie n'est pas encore réhabilitée ou du moins ça n'a pas été dédoublé. Mais déjà sur la voie, il est très important que nous, qui sommes des usagers de la route, que nous arrivions quand même à user d'un certain nombre de valeurs comme la prudence, la vigilance et aussi éviter surtout la vitesse hein, ou l'excès de vitesse sur ces routes.
Oui, c'est surtout la prudence parce qu'on peut dédoubler la voie n'importe comment. Vous allez voir que les gens vont se tuer là-dessus. Moi, je dis que ce n'est pas la route qui tue, mais c'est les gens eux-mêmes qui se tuent sur la route. Quand vous prenez, vous sortez même de Thiéville, pas même de Thiéville, juste après le pillage de Dabié, vous allez voir que c'est le sens unique. Jusqu'à à l'intérieur du pays, même jusqu'à aller vers Dapaon, où c'est à l'entrée de Dapaon qu'il y a un dédoublement de voie. Aujourd'hui, il est urgent qu'on repense cette voie, parce que à chaque fois, vous allez voir des gens, il y a des trous, on vient, on colmate, c'est des colmatages qu'on suit jusqu'à à l'intérieur du pays. Et ça crée aussi des accidents beaucoup. Mais il appartient à nous autres de faire cette présence-là, parce que l'accident qui s'est passé la dernière fois à Grida, à Tapanou là-bas, c'est une question d'imprudence. Le monsieur a mal garé, c'est le Titaman qui a garé. Il a garé de l'autre côté, mais il n'a pas bien mis la remorque tout droit. La remorque est sortie sur la route. Et selon les explications du DG, c'est un bus de 30 places qui est venu supplier, parce que c'est la rentrée, les élèves devaient revenir à Lomé, et que le grand bus Solim de 66 places est rempli. Donc il restait encore les passagers qui étaient là, qui attendaient. Donc ils ont pris le petit bus, le minibus de 30 places, pour que tout le monde puisse partir. Donc voilà que c'est en cours de route au niveau de Atapame là-bas, Gréhi, à l'entrée. Donc il a foncé, il voulait passer, mais il a été surpris par le garage de cet état et un autre véhicule qui venait d'en face.
En sens inverse.
Et c'est là qu'il a pu dévier pour éviter le véhicule venant en sens inverse. Et c'est son côté chauffeur qui a pris la remorque du Titan, qui est garé, la remorque là. Et c'est pour cela que lui-même est parti, avec ceux-là qui sont de son côté, côté chauffeur. Donc voilà comment les choses sont passées. Et s'il n'y avait pas cette imprudence-là, ça n'allait pas arriver. Et je me dis qu'entre-temps, il y a même de cela plus de 3 ans ou 4 ans, le général Yac, au ministère de la Sécurité, avait pris certaines dispositions. Qu'un camion, qu'un véhicule qui gare, qui est en panne et qui gare sur la nationale, ou bien sur une voie, quelqu'un voit, on lui donne un petit temps, c'est 24 heures pour être dégagé. Mais depuis là, quand vous prenez cette route, vous allez voir des véhicules garés, en panne, des titans garés, souvent sans signalisation. Et très souvent même, ils coupent les branches d'arbres pour dire qu'ils signalent qu'il y a un titan qui est garé. Et après, ils partent sans même ramasser ces branches d'arbres-là. Je pense qu'il faudrait revenir sur cette décision-là et dire aux gens que lorsque un titan est en panne, ou bien un véhicule est en panne, il n'a pas le droit de passer 24 heures sur cette voie, sur la voie. Il faut le dégager. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on assiste. Et c'est ça qui crée souvent des accidents. Et ce véhicule-là, c'était dans un tournoi, comme ça, qu'il a garé. Et l'autre venait aussi à toute allure. C'est pour cela que j'appelle à la prudence. C'est la prudence et la vigilance. Et le respect également du code de la route.
Tout à fait.
Parce que les dépassements défectueux ne sont pas autorisés. Lorsque vous savez que vous voulez faire un dépassement et que c'est dans un tournant, la route aussi, elle-même nous parle. Il y a aussi des tracés sur la voie. Il faut le respecter.
Il y a des panneaux aussi.
Bien sûr qu'il faut respecter.
Il faut respecter les panneaux. La route nous parle, mais nous ne voulons pas écouter cette route-là qui nous parle pour éviter ces accidents-là. Donc, il faudrait la prudence, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la prudence et la vigilance. Et surtout le respect du code de la route lorsqu'on prend ces voies. Parce que même si on dédouble la voie, vous allez voir qu'en ce moment même, il y a aussi beaucoup plus d'accidents. Vous prenez la voie du pont échangeur qui va au port. Vous savez combien d'accidents.
C'est le contournement, le pont.
Vous savez combien d'accidents qu'il y a là-bas. Parce que les gens ne respectent rien, puisqu'ils disent que la voie est libre, dégagée, et ils vont à toute allure. Même sur la voie ici à Dogome également, il y a aussi, c'est dédoublé, mais il y a des accidents. Donc c'est la prudence et le respect du code de la route.
D'accord.
Tout le monde veut aller plus vite, tout le monde est pressé. Ça fait que nous avons toujours ces genres d'accidents.
Vas-y, c'est un accident qu'on devait même normalement éviter.
Parce que là où nous parlons aujourd'hui, les gens sont en deuil.
Tout à fait.
Les gens sont en deuil. Et ça plombe les familles dans une désolation totale. Parce que c'est dû à notre faute. La voix, Lomé, la voix nationale, je l'emprunte aussi souvent. Mais comme Abbas vient de le dire, c'est que c'est notre santé. La santé, c'est ce que nous ingurgitons. Hein. La santé aussi, c'est sur la route. Et vous voyez, lorsque vous ne respectez pas le code de la route, même si même la voie est défectueuse, mais notre responsabilité est engagée. Même si vous avez raison, même l'autre a tort, et faites un effort de préserver vous, votre propre santé. Ce qui se passe sur la route, c'est comme les gens n'ont pas passé leur permis. C'est comme ils n'ont jamais eu une notion en ce qui concerne le code de la route. Mais c'est notre santé qui est détruite. Hein? C'est notre santé qui est détruite. Comment est-ce que nous pourrions... Parce que ça me rappelle l'histoire de docteur Amanga. Paix à son âme. Il retournait, il était en mission avec son chauffeur, il retournait. C'est au niveau de l'entretien et il a laissé ça à sa peau. Elle se voyait. Lui et son chauffeur. Parce que c'est dû à un comportement d'un titamane d'en face qui a foncé sur eux. Donc, c'est une sensibilisation, c'est un rappel à l'ordre. Ce que nous disons ici, Pascal, je dis que c'est les pleurs dans la maison actuellement. C'est pas, on doit arrêter.
Puisqu'on parle d'une dizaine
Et pas eux seulement. Avant, même actuellement, là où nous sommes en train de parler, si tu vois ce qui se passe, nous tous sommes des usagers de la route. Mais si tu vois le comportement de certains usagers, c'est comme ils sont tombés du ciel. C'est comme ce sont des extraterrestres qui sont arrivés et qui vont repartir tout de suite.
Il y a quelqu'un qui dit même d'ailleurs que souvent il y a des usagers de la route qui empruntent la voie ou qui sont sur leur engin. Tu croirais tout simplement qu'ils ont en quelque sorte leur vie, l'original de leur vie à la maison et que la photocopie est...
Non, tu vois leur manière de faire sur la route, c'est comme ils disent qu'ils ne vont plus retourner à la maison, qu'ils vont rester. C'est-à-dire que c'est un peu ça. Vous voyez la terre pleine, il y a le feu tricolore qui allume, on dit d'arrêter. Les gens montent sur la terre pleine, hein, empruntent la voie là. Donc ce sont des actes qui ne sont pas civiques. C'est-à-dire que lorsqu'un étranger rentre dans le pays et puis voit nos comportements, des fois moi ça me gêne parce que je suis dans la sous-région, je sais ce que c'est. Mais il faudrait que, quand c'est vie, ça ne suffit pas. Mais nous tous, qui sommes des usagers, nous avons des responsabilités. Des gens qui ont fait un trajet, ils sont fatigués, vous devez garder pour vous reposer. Il y a aussi ça. Des gens qui sont emportés par le sommeil aussi, sur le volant, tu vois que la voiture a pris les ravins et puis s'est cogné à un arbre et puis ça s'arrête là-bas et puis ce sont des pertes de vie humaines. Vraiment, il faudrait que cet appel-là rentre dans les maisons, que les gens écoutent pour dire que oui, on cherche à qu'on améliore nos routes, mais aujourd'hui, on n'a pas de route. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Voilà. C'est vrai que vous parlez tout de suite alors de prudence sur nos routes, et cette prudence est demandée même aussi où les élèves aussi sont invités, surtout qu'ils viennent alors de faire la rentrée scolaire bien sûr, ils sont invités à user alors de cette prudence alors sur les routes. Nous allons parler de cette rentrée bien sûr. Vous écrivez à la une alors de votre journal Le Moyen Libéré ce matin, ministère des enseignements primaires, secondaires, éducation de qualité au Togo. La politique d'Emmanuel au cœur des réformes, APC ou le point d'orgue alors de la réforme curriculaire. Alors, finalement, aujourd'hui, avec les réformes au sein de l'enseignement, on doit miser plus, ou on mise plus alors sur les manuels. Les réformes de manuels, c'est ça?
Oui, on mise plus sur les réformes de manuels. Mais avant d'en venir là, je voulais parler aussi de la sécurité routière également. Parce que les élèves ont repris et il faut aussi de la prudence là-bas. Par rapport même aux conducteurs, aux pilotes, de respecter les passages coûtés aux heures où les élèves sortent de leur lundi, 7h, 6h quand ils vont au cours, midi et puis 17h. Je pense qu'il y a déjà même qui réduit cette circulation, mais il y a les usagers de la route là qui commencent par insulter même les forces de sécurité et même la bonne volonté qui se donne la volonté de réguler ces gens de circulation lorsque les élèves sortent. Toi, tu vas voir même les élèves agglutinés pour traverser la route. C'est en sûrement que les gens mettent leurs pieds sur l'accélérateur pour continuer. Alors que les élèves sont vos enfants, c'est vos embraves. Donc il faut qu'on puisse respecter cette situation-là afin d'éviter ces genres de choses.
Avant de revenir sur les réformes alors d'Emmanuel, il y a Sylvestre qui veut ajouter quelque chose
à cela. Je voulais en fait insister sur cela. On a montré aux enfants, aux apprenants à l'école, que lorsque vous voulez traverser la voie, emportez donc les passages cloutés. Alors, les jeunes sortent donc de la classe et à traversant, ils apportent les passages cloutés. Mais c'est en ce moment-là que vous verrez les taxis vont foncer sur ces jeunes-là. Je l'ai souvent observé au niveau donc, du collège protestant. Ici, le collège protestant qui est au niveau donc, de tout coin ici. Lorsque ces jeunes-là veulent traverser, ils empruntent les passages cloutés. Mais c'est en ce moment que vous verrez que les chauffards foncent sur ces jeunes-là. Or, quelqu'un qui est sur les passages cloutés, vous devez laisser la personne traverser avant de continuer. Voyez-vous donc qu'on doit insister beaucoup sur ça et que les forces de l'ordre puissent les aider à comprendre que lorsque les enfants empruntent ces passages cloutés-là, on doit les laisser traverser et après vous continuer.
Voilà. Parlons maintenant des réformes d'Emmanuel dans l'enseignement.
Oui, effectivement, ces réformes ont commencé depuis un certain temps parce que aujourd'hui, il faut que les enfants puissent savoir que ce que j'apprends, ça va me permettre de devenir quelque chose plus tard. Il faut couper avec ces gens de colonisation que nous avons faites. Donc, comme le gouvernement est engagé dans les réformes depuis quelques temps, il a commencé par introduire ces réformes, ces manuels-là, dans le préscolaire, section et section 2, où les enfants apprennent avec les manuels fabriqués dans notre pays. Également, c'est passé entre le CE2, le primaire, CE2 et CE1, CP1, CP2, CE1, CE2, avec ces manuels qui sont déjà introduits au niveau des établissements primaires. Et cette année, c'est introduit dans le cours moyen, au CM1. Pendant ce temps, on a lancé des impressions de ces manuels-là pour que ça puisse être utilisé dans les classes de CM2. Comme ça, on va boucler ce processus-là avec les classes de CM2. Et après, on verra ce qui va se passer au niveau du
collège.
Et donc, au niveau du collège, il y a certains manuels aussi qui ont commencé par être utilisés. C'est pour voir comment on va faire le curricula au niveau de la formation scolaire pour que les enfants sachent. Et pour cela, pour ces réformes-là, il y a une direction technique qui est mise en place pour surveiller ce programme de changement de manuel et de production de ces manuels-là au niveau du ministère des enseignements primaires et secondaires. Je pense qu'avec l'arrivée du ministre Kokoroko, les choses sont en train d'aller très vite et que cette direction technique qui va suivre les programmes, les manuels qui seront fabriqués pour voir leur qualité et savoir s'ils sont en quantité suffisante afin de permettre aux élèves d'être bien formés, d'avoir la disponibilité de ces manuels scolaires. C'est des formations qui sont en train de se former et de se faire, et ça va permettre aux élèves de dire « Nous adoptons nos propres cultures ». Parce que depuis que c'était au temps du ministre ancien, il y a des années avec le ministre Abetiapa, où les réformes avaient eu lieu. Depuis là, on a pu faire d'autres réformes par rapport à nos manuels scolaires. Aujourd'hui, tout va rentrer dans l'ordre. Et ça a commencé au préscolaire. Aujourd'hui, c'est au primaire. Et ça va finir les impressions pour les classes du CM2 sont en train d'être faites.
D'accord.
Et on verra pour le secondaire.
D'accord. Et c'est vrai que la critique qui est toujours adressée à ces manuels, c'est que ces manuels ne répondent pas aux réalités de nos pays, surtout aux pays africains, je veux bien dire, notamment le Togo. Donc là, on pourra dire que si on fait maintenant des manuels où on est en train alors de concocter des manuels qui soient adaptés, même d'ailleurs, à nos réalités, je pense que c'est une bonne chose. Hein?
Oui, oui, c'est une bonne chose. Nous avons eu des livres où un Gonda va à l'école, une fille à l'école, ça n'aboutira à rien. Nous avons eu des choses lorsque Amma doit être à côté donc, de sa maman pendant que l'autre doit aller à l'école ou Kofi doit jouer ou doit aller à l'école et tout ça, vous savez. Ce sont quand même des choses qui véritablement n'ont pas permis d'être de nous affranchir un peu de ce que tout ce que le colon enseignait. Entre temps, il y a des filles qui étaient à l'époque un peu plus intelligentes que les garçons, mais du fait que une fille à l'école ça n'aboutira à rien, on a pu privilégier le garçon qui malheureusement peut-être était beaucoup plus un taré. Et voilà qu'aujourd'hui, je crois que les mentalités évoluent et il faut adapter, tel que je le dis, les manuels à nos réalités. C'est vrai que, bon, on était là, il faut s'amourouturer le roi Benyazin et tout ça. C'est vrai, c'est une très bonne chose. Vous savez, nous avons également besoin d'une culture générale. Et sur ce point-là, j'apprécie beaucoup les Français qui ont tellement donc de culture générale. Mais c'est une fixation, trop de fixation. Sur cela, c'est ce qui nous a pas véritablement aidé. C'est-à-dire au moment où on connaît les villes, les pharmaces américains par cœur, l'agriculture sud-africaine, les villes de la France, les villes de l'Allemagne, dessiner l'Allemagne et tout ça. Au même moment, quand on me demande donc, de montrer, il y a peut-être 2 ans, quand on me dit il y a que Pakandji au Togo, je dirais non. C'est avec l'attaque, malheureusement, bon, quelque chose de malheur, bon, peut-être, c'est avec l'attaque là, que nous avons eu. Que bon, nous sommes brandis contre lui. Au Togo, il y a une ville où il y a une contrée qu'on appelle Pépakadi. Voyez-vous, mais pendant ce temps, si on me demande de citer les villes françaises ici, je vous donnerai ça peut-être jusqu'au lendemain. Vous voyez,
les villes japonaises,
la japonaise et tout ça, il faut adapter, je crois, ces cuculades à nos réalités. Mais, et j'insiste là-dessus, il faudrait aussi qu'on ait une ouverture sur le monde. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les diplômes togolais sont véritablement prisés à l'extérieur parce que ici, notre devise nous a influencés. On travaille beaucoup, travail, liberté, patrie, on travaille beaucoup. Et à l'étranger, on reconnaît ça pour le Togolais. Mais faisons plus de fixation sur ce qu'on a, Kouma Konda et tout ça. Maîtriser ça au lieu d'aller chercher peut-être une ville de Russe où il fait beaucoup plus faire que Kouma Konda. Voilà un peu. Donc ce qui se fait aujourd'hui, il faut saluer cela. Quoi. Voilà.
Il faut saluer cela. Basile, c'est vrai que c'est quelque chose à saluer, mais ça dépend surtout du modèle d'élèves que le Togo entend former dans 10-15 ans.
Oui, parce que vous savez, lorsque on finit de prendre le bac au Togo, où est-ce qu'on va? Quel est notre premier
destination? Oui, c'est l'université.
Quelle université? C'est les sérieux. Est-ce que vous voyez? Donc, raison pour laquelle, des fois, lorsque vous êtes nanti d'un diplôme, vous allez dans ce pays, et l'un de ces pays, le diplôme est dévalorisé. Est-ce que vous voyez? Donc, on dit que vous n'avez pas leur culture, vous n'êtes pas adapté à poursuivre votre cursus scolaire au même titre que l'étudiant de ce pays-là. Est-ce que vous voyez? Donc, comme l'autre vient de dire, Béni vient de dire, il faut une adaptation. Aujourd'hui, le monde est devenu comme un village. Si vous êtes au Togo, c'est comme vous êtes aux États-Unis, dans un pays, dans un État là-bas. Vous êtes à Angoulême ou bien à Roissy. Donc, il faut adapter cette nouvelle connaissance à l'actualité de l'heure. Sinon, si on veut se calquer seulement sur nos propres réalités, nous n'irons nulle part. Donc, il faut vraiment un alliage entre ce que nous avons ici et ce qu'on peut aussi développer de l'extérieur. La géographie, oui, il faut connaître la géographie. Est-ce que les Togolais, aujourd'hui, est-ce qu'on voyage, nous-mêmes, est-ce qu'on voyage, est-ce que nous connaissons même là d'où nous venons? Nous tous nous sommes engloutis à l'OMA ici. Est-ce que si on dit de donner un petit village ou bien un gros village de Thiévé ici à côté, est-ce que nous sommes en même mesure? Donc, il faudrait qu'on s'ouvre aussi à ces pays-là, d'autant plus que nous avons besoin de cette technologie, de cette connaissance extérieure émanant des pays occidentaux pour asseoir vraiment un développement harmonieux. C'est très indispensable. Fermez sur nous que le panafricanisme que nous allons vivre dans nos quartiers, ce n'est pas ça, mais il faut l'adaptation. Tirer les choses.
C'est vrai que Basile a évoqué un souci qui est très important aujourd'hui, c'est-à-dire surtout les étudiants togolais peut-être, ou même d'ailleurs de l'Afrique, qui se retrouvent à l'extérieur dans les pays européens. Et on dit que maintenant, il faut l'arrimage maintenant du diplôme par rapport à leur diplôme, que souvent le diplôme d'ici est dévalorisé. Et est-ce que ce n'est pas un souci quand même à régler par surtout notre système éducatif?
Ben, c'est pour ça qu'on est en train de faire des réformes ici au Togo. C'est ce souci-là qu'il faut chercher à revoir et à réorganiser. Aujourd'hui, on parle de l'approche par compétences, APC. Et c'est ça, par rapport à ça, que les gens se basent, au niveau de l'éducation, on se base pour changer le système éducatif au Togo. Mais vous avez vu ce qui se passe depuis quelque temps. On a commencé par créer même les IFAD, les écoles de formation, où quand il finit, tu n'as pas assumé quelque part. Avant, quand nous on allait à l'école, tout le monde disait que non, je vais avoir mon bac, ma maîtrise. C'est pour aller rester dans le bureau climatisé. Et c'est ça qui a créé même le mouvement du chômage. Tout le monde veut aller travailler dans un bureau, être recruté dans la fonction publique.
Est-ce que depuis le bas âge, c'est parce qu'on nous a mis dans la tête?
C'est ça, je dis que c'est le système colonial, le système d'éducation qu'on nous a donné depuis le bas âge. Et ça, il faut rompre avec cette situation. Il faut rompre avec ça pour dire que quand je fréquente, aussi, je dois aussi être formé. Parce que quand vous allez dans d'autres pays, comme au Ghana, le système anglais, c'est que dès le bas âge, on vous apprend ce que vous devez faire. Vous avez au moins quelque chose sous la main que vous finissez, vous allez faire. Vous n'allez pas dire que je vais finir et on va m'engager dans la fonction publique ou quoi que ce soit. Peut-être qu'on va t'engager dans la fonction, on te prend dans la fonction, tu vas faire ce qu'ils appellent service militaire. Service au niveau du recherche de ces fonctions, vous allez travailler là-bas, puis tu reviens, tu crées ton propre atelier. Aujourd'hui, on est en train de faire la même chose. Et ce qui se passe, si on s'en tient à la colonisation, à ce qu'on nous a mis dans la tête, que vous devez aller travailler au bureau, quelle fonction publique va recruter maintenant? Dans quel métier vous allez travailler? Alors que vous-même, vous êtes capable de faire quelque chose de vous-même. Et c'est pour cela que je salue l'initiative du fait que, désormais, on a fait d'autres réformes pour dire qu'à l'école, il faudrait que les élèves savent comment monter l'électricité, comment faire des vases communicants, pour que au moins on sache comment on fait l'électricité, ou bien on peut faire de telle sorte que vous créez de la lumière dans votre salle de classe. Et c'est des choses qu'il faut apprendre aux enfants. Et que quand l'enfant sort, il sait qu'il va trouver quelque chose, il va devenir quelque chose. Avec les IFAD qui sont là, il y a l'agriculture là-bas, il y a
l'aquaculture,
le forage, il y a l'aquaculture, il y a tout qui a été mis en place. Donc je pense que quand le jeu finit, s'il dit qu'il veut aller faire le ferrage, ou le faire à nu, il peut aller dans ces gens de col-là et sortir pour avoir quelque chose entre sa main, au lieu d'attendre qu'on va l'appeler dans la fonction publique. Vous voyez maintenant le nombre d'étudiants que nous avons. Après le bac, on dit que nous avons combien d'étudiants? Aujourd'hui, à l'université, on peut avoir plus de 120 000 étudiants pour les deux universités. Mais quand ils vont sortir là, ils vont apprendre quoi? C'est pour ça qu'il faut saluer ces réformes de curricula qu'on a introduites pour que les élèves soient formés à partir de le bas âge. On coupe avec ce que nous avons et ce que nous pensions auparavant pour dire que quand je sors de j'ai fini mes études, c'est pour aller rester dans un bureau climatisé pour servir le pays.
Oui, vas-y.
Oui, vous savez, moi, Très souvent, nous les Africains, nous sommes pris au dépourvu. Nous sommes surpris et on se perd la tête. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'intelligence artificielle. Lorsque je pense à ça, je dis, ah, où est-ce qu'on nous emmène encore? Parce que le robot, c'est que on n'aura plus besoin de...
Des hommes?
Des hommes. C'est-à-dire que même dans certains pays, pour aller dans un supermarché, tu ne verras personne. Tu as que ta carte, tu rentres, tu emballes les choses, tu mets et puis tu repars.
Mais c'est aussi l'évolution de la technologie.
Oui, c'est l'évolution de la technologie. Est-ce qu'on prend conscience de cet aspect-là que, qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui? J'ai raconté un esprit qui dit que aujourd'hui on a besoin que des gens qui peuvent défendre des projets, des gens qui peuvent convaincre les gens. Mais pour travailler, pour aller travailler, qu'on n'aura pas besoin des hommes.
Quoi, la machine fera à notre place.
Que tout sera programmé. Tout sera programmé. Aujourd'hui, la période du Covid nous a montré un chemin aussi, où les gens ont fait le journal à la maison. Aujourd'hui, il y a visioconférence. Si on se programme ici, vous allez m'appeler à la maison, même sur mon lit, nous tous, on va faire ce débat-là sans souci.
Sans se déplacer.
Est-ce qu'on a conscience que ça vient et qu'est-ce que nous, sur le banc, nos enfants qui sont sur le banc, qu'est-ce qu'on les apprend? Qu'est-ce que, finalement, ils vont se retrouver comme nous aussi nous sommes retrouvés au dépourvu pour dire que, ah, on nous a mal orientés, on nous a dit de venir tant, et voilà qu'on est arrivé, c'est pas ça.
C'est un défi que nous devons relever.
Tout à fait,
voilà. Et c'est parce que, intéressons-nous maintenant au front, front touche pas à ma constitution. C'est vrai, tout récemment, il y a le front qui a lancé une campagne, et on se souvient de cette campagne pour la libération des détenus politiques. Tout récemment aussi, le front, je me souviens, je pense que tout simplement que c'était le lundi, non? Lundi dernier, le front avait plutôt souhaiter distribuer même des kits scolaires aux familles, alors des détenus politiques. Et je pense que c'est un bon geste. Vous écrivez même d'ailleurs sur dans ce sens un geste symbolique du front touche pas à ma constitution, c'est ça?
Oui, c'est un geste symbolique. Et lorsque vous écoutez les premières responsables, puisque j'y étais la dernière fois, à l'attente donc de leur discours, ils ont dit aux familles, aujourd'hui nous ne sommes pas là aujourd'hui pour faire de la politique. Nous ne sommes pas là pour vous demander de voter pour nous, ou ce n'est pas ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, mais d'autant plus s'il y a certains membres donc, de vos familles qui sont aujourd'hui en prison, alors qu'il y a la rentrée qui est là, nous sommes là juste pour vous aider. C'est vrai que nous ne pouvons pas acheter tout ce dont ces enfants ont besoin pour une très bonne rentrée, mais nous voulons juste jouer notre partition. Ça revient. Nous voulons faire notre part dans l'éducation donc, de ces enfants-là. Et lorsque vous écoutez Nathalie Olympio, la rencontre a eu lieu au niveau donc, du parti des Togolais, c'est lui qui a accordé donc, l'interview aux médias, il revenait sur un aspect qui est important, puisqu'il disait que le fait qu'un parent se retrouve derrière les barreaux, ça augmente le risque de déscolarisation. Oui, parce que certains, du fait que le papa a été arrêté ou la maman et tout ça, si c'est presque le poumon financier de la maison, vous voyez que ça peut entraîner, conduire certains à abandonner donc, les études. Et là, ils ont fait leur part, je crois, ils étaient environ une cinquantaine. On leur a distribué des kits scolaires, cahiers, bics, couvertures et tout ce que, bon, généralement, l'essentiel pour reprendre les classes. Et j'ai cru entendre également que le vendredi prochain, une délégation de ce front-là va se rendre à Sokodé pour une journée de réflexion et de prière pour ceux qui sont encore en prison. Je crois que le nombre est estimé à 93, les détenus politiques ou les prisonniers politiques qui sont encore là aujourd'hui. Et ils ont déjà mené des actions. Ils ont allé voir donc le ministre des droits de l'homme et tout ça, et ils mènent des actions pour que tout ce beau monde-là soit relâché, impartial, certains sont là sans jugement et tout, soient relâchés afin qu'ils puissent retrouver leur famille.
D'accord. C'est vrai, parlons toujours alors du front. Tout récemment, je lisais une note, on en parlait même hier, où le front a exclu trois partis politiques de ses rangs. Il y a d'abord le parti ADI, il y a le parti Santé du Peuple et aussi l'UDS Togo. Déjà, quand on écoute que déjà ces trois partis sont exclus alors du front, est-ce que ça n'affaiblit pas aussi le front?
Ils ont exclu le front, peut-être qu'ils disent que ceux qui nous ont exclus sont les malheurs du front. C'est donc qui vont faire tomber le front parce qu'ils disent qu'ils ne suivent pas la ligne du front et qu'ils vont faire chier. Donc, quand ils ont exclu, ils ont donné certaines raisons de cette exclusion.
Effectivement, les orientations, ces partis politiques ne respectent plus alors les orientations.
Les orientations, donc, ce qui veut dire que leurs partis politiques, s'ils sont avec eux, vont affaiblir leurs actions qu'ils mènent. Ils ne sont pas dans leur logique. Donc, moi, je dis que chacun a sa ligne politique et chacun a sa ligne qu'il suit. Donc, si les autres ont décidé qu'ils ne vont plus à des réunions, c'est tellement qu'ils ont constaté qu'il y a des choses qui ne peuvent pas adopter lors de ces réunions, lors de ces rencontres. Normalement, au lieu de les dire là-bas clairement, ils n'ont pas dit. Donc, les autres ont été obligés de les exclure. Mais là où ce front a été constitué, puis les gens sont rentrés, on ne sait pas comment ça s'est passé. On ne savait même pas qu'il y avait des partis politiques qui étaient membres de ce front, touche pas à ma constitution. Seulement que s'il y a des manifestations, il y a certains partis politiques qui viennent les assister.
Il y a même des organisations.
Il y a des organisations de la société civile qui viennent également. Donc je ne savais pas que c'est constitué et d'associations de la société civile et des partis politiques. Aujourd'hui, qu'ils ont inscrit, certainement, ils ont eu leur raison. Ils ont vu que si cela continue par être avec eux, la lutte qu'ils mènent sera affaiblie.
Quand ces autres partis, ces partis politiques qui sont exclus, ont une nouvelle orientation par rapport à l'orientation même initiale à l'heure du front, est-ce que finalement, c'est pas parce qu'ils comprennent que, mais allez, la lutte ne va pas aboutir?
Non, écoutez, lorsque vous êtes dans une organisation que vous ne partagez plus les idéaux de l'association, de l'organisation, c'est normal qu'on puisse vous exclure. Nous l'avons vu avec l'ANC. Lorsque l'actuel ministre Gomando est rentré au gouvernement, l'ANC l'a exclu. C'est de bon, c'est leur droit. Et lorsque vous ne partagez plus la ligne politique donc d'une association ou d'un front, d'une coalition, c'est normal qu'on vous exclue. Et vous avez vu que lorsque vous prenez le cas de Hadi, par exemple, Hadi, il y a l'actuel député Kossivi Ognan, qui s'est rendu en aide dans le cadre, donc, avec d'autres partis politiques, dans le cadre, donc, de la Constitution. Or, il y a ceux qui sont, le Front touche pas à la Constitution, mènent déjà une lutte contre la Constitution de la 5e République. Or, eux, ils sont dans une logique presque de l'opposer. Et c'est normal qu'ils soient exclus. Et lorsque vous prenez l'UDS de Antoine Folly, l'UDS Antoine Folly a clairement dit que non, il faut maintenant évoluer avec la 5e République. Voilà, donc ce n'est plus en phase avec le Front touche pas à ma constitution. Et donc c'est normal qu'ils soient exclus. Je crois que ça, il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Maintenant, s'ils trouvent, concernant, comment vous l'appelez, Croissant
Santé du Peuple.
Santé du Peuple.
Oui.
Lui, je crois qu'il lui est reproché de ne plus venir à la réunion. Voilà, que peut-être qu'à un moment donné, il se dit, bon, ce que nous faisons, il ne se sent plus concerné, peut-être. Et là, c'est normal qu'il soit exclu. Donc, lorsque vous prenez tout ce moment-là, je crois qu'il y a un journal qu'il a écrit aujourd'hui qui vont à la rescousse donc, du régime. Bon, peut-être que je ne sais pas, ça souffre. Mais vous voyez, lorsque certains ne sont plus en phase avec eux, font d'autres choses, c'est normal qu'on puisse les exclure.
D'accord. Okay.
Et là, je crois que c'est normal. Quoi. Allons-y.
Merci. Voilà. Merci beaucoup, cher confrère. Maintenant, nous allons écouter aussi nos auditeurs qui sont à l'écoute, bien sûr, et qui s'impatientent à entrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Nous allons leur donner la parole sur le 90 86 35 35 ou le 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35. Allô?
Allô,
bonjour. Bonjour, comment vous allez?
Oui, je me porte bien.
D'accord, votre nom c'est...
Waris, je vous appelle depuis Agen dans la préfecture.
Waris, vous allez bien?
Oui, par contre, très bien.
D'accord, allez-y.
Et j'ai salué tout le plateau. Bon, concernant les incidents sur nos routes, je pense que la perte de vitesse, des téléphones au volant, et des fautes de permis, des non-respect des codes de la route, tout ça là, nous les retrouvons, tout ce que je viens de citer, nous les retrouvons chaque jour. Dans la circulation. Donc, je pense que les chauffeurs doivent être conscients aujourd'hui. Et alors, nous parlons paisiblement ici. Il y a des familles qui sont en deuil. Il y a la pleure, les pleurs dans les maisons. Donc, je vais exhorter le gouvernement, en l'occurrence le ministère du tutelle, qu'on ne peut pas continuer à caresser ce secteur. On ne gouverne pas un pays à caresser. Puisque on ne peut pas, puisque quand les chauffeurs aujourd'hui décident de ne pas respecter les codes, je pense qu'il faut frapper Dieu. Il faut taper le poing sur la table et frapper Dieu sans tenir ce qui est intentionné. Et deuxième chose, du côté du Front N'existe pas la Marche Constitution, on les félicite pour leur démarche sur le terrain en assistant les enfants ou la famille de ceux qui sont en prison pour des fautes politiques. Mais seulement qu'on a encore entendu qu'ils veulent, ils préparent des manifestations pour la libération des prisonniers politiques. Moi, Waris, en tant que citoyen de ce pays, je pense que ce n'est pas la bonne voie. Certains ont emprunté cette voie. L'ANICE a fait ça jusqu'à ce qu'il a demandé le résultat d'un président élu. Il n'a pas trouvé gain de cause. Moi, je leur désordre de demander un audience à voir le président de la République, le chef de l'État, et une fois que l'audience c'est accordé, ils vont lui demander, parler, aussi brutal. Le président de la République, il est bien tout boulé, et il nous a eu dans le contrôle. Tout ensemble, nous passons à une autre chose. Mais quand on veut encore descendre les gens dans la rue,
D'accord, merci.
Ça va encore créer du désordre.
Merci beaucoup, merci beaucoup, Waris. Vous avez été largement compris. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Papa Simiti.
Bonjour. Bonjour tout le plateau. Vous venez avant de commencer. Vous avez dit que vous donnez la parole. Moi, directeur, vous donnez parole, intervenons. Et votre... se permet de nous insulter parce que c'est notre domaine. Le bassin, ce n'est pas moi qui ai posé le problème, c'est vous-même. Vous avez fait la pédagogie du bassin pendant plus d'un an sur le bassin et pour le bassin. Donc, ce que je voudrais vous dire, je ne suis pas n'importe qui, j'ai enseigné l'audiovisuel, je connais, je ne vais pas m'attarder à cause du respect que je vous dois. Vous voyez, vous avez dit quelque chose, la rue. Et ça s'est bien abattre, ça s'est bien là-bas. Nos parents ont été des chauffeurs avant d'être des vice-présidents. La rue n'était pas comme ça, vous dronez, non. Le commissaire Sodi dit que ce n'est pas pour se voler s'ils ont une vie à la maison et une autre dans la rue. Ce qu'il y a, c'est la pédagogie. Vous savez, ce n'est pas le livre. C'est l'enseignant, le formateur. Le livre, un beau livre entre les mains d'un enseignant malhabile. Ça, vous avez ça, vous avez ce qu'il faut faire. Vous maîtrisez ça, les résultats seront toujours bons. Comme l'a dit le ministre, il y a beaucoup de choses. Par respect que je vous dois, je vais m'arrêter. Moi, j'ai formé des préfets à nos deux visuels ici. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Siviti, pour votre intervention 90-86-35-35.
Allô? Allô, bonjour.
Oui, bonjour, M. Dado.
Oui, je voulais parler des retours, là. Vous savez, le chef d'État, quand il voyage, il n'attend rien de leurs collègues. Par exemple, au Ghana, ici, là, le retour, c'est déjà fait plus de 40 ans. C'est vrai. Ils appellent, on appelle ça opération sur le sol. On apprend même les élèves comment planter, et puis à la maison, ils ont des petits jardins. Mais ils ont un seul lycée technique à Lomé. C'est normal ça, un seul lycée technique. Mais est-ce que c'est comme ça, très bas. Est-ce que c'est normal? Hein? Mais sinon, moi, je vous avoue, vous parlez du report. Où sont les écoles? Mais pas tout le monde qui peut aller dans les privés. Hein? Donc, c'est que ils n'ont aucun programme pour le pays. Ce qu'ils ont, c'est tout pour encourager les sociétés de taxi moto. Et on appelle dans le moteur, dans la ville. Et on dit qu'un pays plein de motos, c'est un pays pauvre. Après, vous parlez de permis. C'est le permis qu'on conduit. C'est la conseille qui conduit. Au lieu de faire des gens, vous parlez de permis. Pour encore ramasser de l'argent. Ça, c'est quoi ça? Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi, M. Gado, pour votre intervention 90-86-35-35-91-36-63-75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Armand.
Bonjour, le plateau.
J'espère que vous allez bien.
Je me porte très bien.
Allez-y.
Il faut dire que c'est vrai. Aujourd'hui, concernant la route, c'est primordial que des efforts puissent être faits. Parce que, qu'est-ce que nous remarquons? Comme vous l'avez si bien dit dans vos développements, il y a certains outils qui sont à leur tête. Et on ne peut pas, c'est-à-dire, ce n'est pas à cause de quelques petits dames mal, je ne sais pas comment dire, qu'on va avoir à chaque fois des catastrophes qui ne disent pas leur nom. Il va falloir un temps soit peu que les autorités puissent saisir les agents de la route, ainsi que les communes même puissent se mêler, puissent venir même en aide à l'État concernant cet état de choses. On le dit si bien que sur la nationale numéro 1, mais ici à Lomé aussi, le long de certains boulevards, il y a beaucoup qui viennent garer à des lieux où c'est interdit de faire le parking. Et puis ça crée, surtout aux autres points, ça crée des embouteillages. Il va falloir un temps soit peu qu'on arrête tout ce désordre. Merci.
Merci beaucoup, Armand, pour votre intervention 90-86-35-35.
Allô?
Voilà. Oui, bonjour.
Bonjour, Canal FM, c'est Richard depuis Copenhague.
Ah, Richard, d'accord, allez-y. J'espère que vous allez bien.
Vous avez parlé de la route qui tue. Vous voyez, moi, je n'ai jamais cessé de parler de la route qui part de Bafilo à Pia, à rentrant Cara, sincèrement. La dernière fois, j'ai évoqué ce problème et le ministre a dit que non, il y a un effort qui est fait. Je suis tout le temps au Togo. Je fais au moins une fois, deux fois dans l'année. Et la route, vous voyez, le gros camion qui passe même devant le temps. Le temps l'Andia, et ça va jusqu'à à Pia. Vous ne pouvez pas comprendre le nombre de personnes qui meurent chaque jour sur cette voie. Bon, pour l'éducation, vous voyez, notre école togolaise nous apprend déjà depuis le CPM, ça nous apprend comment plus tard aller vivre en Europe. Moi particulièrement, je pense que c'est à 15 ou 4e quand on étudiait l'Europe, que le nom du Danemark, Copenhagen, est venu dans ma tête. Depuis la classe de 4e, je suis resté amoureux de cette étude. Et voilà, après le bac, j'ai dit non, il fallait continuer, je devais faire le choix industriel. Et puis je suis venu Vous voyez? Donc, notre système éducatif, déjà même, nous apprend comment, dès après, quitter l'Afrique. Je demanderai aux autorités de tout faire ce que, au moins, dès le primaire, qu'on nous apprend comment manipuler les trucs, apprendre la menuiserie, les magistrats et autres. Merci beaucoup, belle émission à vous.
Merci. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Richard, depuis Copenhague. Je pense que Richard, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce mercredi. Chers confrères, nous revenons en studio pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Abbas, vous avez écouté les uns les autres, votre réaction?
Non, pas trop de réaction, sur la route qui tue et également sur les écoles. Je pense que chacun a donné son point de vue. Nous, ce que nous avons à dire, c'est d'appeler tout le monde à la prudence. Et que quand tu sors de la maison, que tu dis que tu vas revenir à la maison en bonne santé. On ne peut pas se dire que j'ai quitté la maison et je vais pour mourir. Et si vous, votre vie n'est pas chère, ceux-là que vous transportez, c'est aussi leur vie, vous êtes chère. C'est cela qu'on dit au chauffeur. Il faut qu'il se contrôle parce qu'il n'est pas seul. Il est transport de vie et qu'il conduise de façon prudente pour que cette vie-là soit conservée. S'il veut mourir, et il a dit qu'il va mourir, il ne faut pas qu'il tue ceux-là qu'il a transporté. Il en est de même avec les conducteurs de moto, les taxis moto, qui aussi vont à toute allure, qui tuent n'importe comment, qui ne respectent même pas le feu tricolore et ils dépassent. Même en transportant des gens, des passagers derrière eux. Je pense que c'est le temps de leur dire de faire attention, de faire la prudence. Et encore que nous sommes en période de rentrée scolaire, c'est les enfants, il faut aussi respecter les enfants.
Et alors, si je reste avec vous pour votre note de fin d'émission.
Oh, la note, je pense qu'il faut la donner aux deux clubs de Asso de Caraïbes, la SICA. Les clubs togolais qui nous ont représentés la dernière fois, ils ont fait match à ce qui a été battu là-bas à Bamako. On espère qu'il y aura un bon match ici. Je donne pour Asco au moins 6 sur 10.
Voilà, 6 sur 10 à Asco.
Pour Asco et pour l'autre ICK qui a pu battre les Guinéens. Non, ce n'est pas les Guinéens. Qui a battu 2-1, je donne 5 sur 10 parce qu'il faut aller défendre à 7 Mimosa.
Oui, d'accord.
Il faut aller se défendre.
D'accord. Oui, Sylvestre.
Non, je crois qu'au premier intervenant, peut-être que nous n'avons pas mieux expliqué les choses, peut-être plus. En fait, ce n'est pas une manifestation dans la rue. Selon donc, ce que nous avions eu comme information, il s'agit donc d'une journée de prière, de solidarité. C'est ce qui est une journée de prière de solidarité en faveur des détenus politiques. Donc ce n'est pas une manifestation dans la rue. Je crois que c'est M. Waris.
Oui, justement.
Oui, je voulais le rassurer pour ça. C'est ce qui se fera donc le 20 septembre prochain à Sokodé. Et puis l'heure, mais il est dit de 8h à 12h. Donc c'est une prière et peut-être que ce qui a été fait à Lomé en distribuant donc des cahiers, peut-être que ça se fera également donc, le 20. On en saura davantage.
D'accord.
Maintenant, pour le. Beaucoup sont revenus également sur les accidents, la voie et tout. Oui, c'est vrai que non seulement la voie n'est pas assez large, mais elle n'est pas bonne non plus. Pour ceux qui ont souvent l'habitude donc, d'emprunter la voie Lomé s'est cassé et tout ça, vous verrez que la voie n'est pas bonne à beaucoup de niveaux. Il faut également le faire. Et puis pour un autre, je donne. 8, hein, 8 de patriotisme.
8 sur 10.
8 sur 10 à New World TV, qui reprend aujourd'hui la Champions League. Nous avons vu les images hier avec même des reporters qui sont sur les lieux
voilà.
Sur les différents stades donc, du monde. Je crois que c'est une prouesse. Donc, 8 de patriotisme pour New World.
8 sur 10. Voilà. Vas-y.
Oui. Non, je reviens sur les accidents de la route. Je pense que tout le monde l'a soulevé parce que ça nous concerne tous. Aucun parent ne sort de sa maison pour dire que je ne vais plus revenir.
c'est une fierté de dire « bon arrivé papa, bon arrivé maman, bon arrivé tante, etc. etc. » Donc, j'appelle à la responsabilité de tout un chacun d'être vigilant.
Et surtout à la prise de conscience.
À la prise de conscience. Mmh. La vie, elle est importante. On doit vivre. C'est un don de Dieu. On doit la protéger.
Mmh. Votre note de fin d'émission
7 sur 10.
7 sur 10, à qui ou à quelle institution
Non, au ministère de l'enseignement primaire qui ont pris cette décision-là à l'endroit de nos enfants, de nos élèves à l'école, et en leur interdisant l'utilisation du portable.
Mmh. En fait, c'est l'école. La réglementation.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous, les parents d'abord, on sensibilise les enfants à la maison. Que ce que le ministère a dit, ça va de leurs intérêts.
D'accord.
Et donc, qu'il n'y a pas d'autres cloches différentes de ce que le ministère a dit.
Donc, je pense que c'est un... Merci beaucoup, Basile Mignacqué. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Santé Éducation. Merci d'être passé dans cette émission. Sylvestre Beny, merci aussi d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal La Machette.
C'est le seul Beny de la corporation.
D'accord, ok. Alors, on vous concède cela. Alors, Abbas Nsaka, merci d'être passé dans cette émission. Hein. Vous êtes le directeur de publication du journal Le Moyen Libéré. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Kiki Soussa qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lussou. Je vous retrouve demain, jeudi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.